Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Vous écoutez Crime Story, l'affaire Jean-Baptiste Rambla, deuxième et dernier épisode. En février 2005, Corinne Bédel, une chef d'entreprise disparue 7 mois plus tôt, est retrouvée morte à Marseille. Elle a été étranglée. Un de ses employés, Jean-Baptiste Rambla, est immédiatement soupçonné. Interpellé, il reconnaît les faits. Ce n'est pas la première fois que Jean-Baptiste Rambla fait face à des policiers. 30 ans plus tôt, il a été le principal témoin d'une affaire qui a défrayé la chronique. Il avait alors 6 ans. L'affaire du pullover rouge commence en 1974. Les Rambla sont une famille d'immigrés espagnols. Arrivés en France dans les années 60, ils vivent dans la cité Sainte-Agnès, un ensemble d'immeubles à Marseille situé dans le quartier des Chartreux. Le père, Pierre Rambla, est boulanger. La mère, Maria, ancienne femme de ménage, a cessé de travailler après la naissance de leurs enfants. Marie-Dolorès a 8 ans, Jean-Baptiste 6 ans et Karine et Noël, les jumeaux, 3 ans. Le lundi 3 juin 1974 est un jour férié, un lundi de Pentecôte. Ce n'est pas encore l'été, mais il fait déjà très chaud. Jean-Baptiste et Marie-Dolorès Rambla jouent devant leur immeuble. À 11h, leur mère apparaît dans l'encadrement de la fenêtre de la salle à manger et leur demande de remonter. Les enfants négocient de rester encore un petit peu. Quelques minutes plus tard, un homme en costume gris qui vient de se garer devant la résidence s'approche d'eux. Il a perdu son chien et aimerait que les enfants l'aident à le retrouver. Il dit à Jean-Baptiste, que tout le monde surnomme alors le petit Jean, « Toi, tu passes de ce côté-là de la cité, moi de celui-là avec ta sœur. » Jean-Baptiste s'exécute. Quand il revient sur ses pas, sans avoir trouvé le chien, l'homme n'est plus là. Et sa sœur non plus. Jean-Baptiste l'appelle, elle ne répond pas. À 11h20, environ 15 minutes plus tard, Pierre Rambla rentre chez lui et trouve son fils errant entre les bâtiments à la recherche de sa grande sœur. Il se met à chercher avec lui. Au fur et à mesure que les minutes passent, l'angoisse du père grandit. Les voisins répondent les uns après les autres qu'ils n'ont pas vu Marie-Dolorès. Quand policiers et journalistes arrivent sur place, quasiment en même temps, vers 13h, ils trouvent des parents dévastés. La mère de Marie-Dolorès est en larmes, son père en furie. Où est passée sa fille ? Que la police se dépêche, fasse son travail, qu'on la retrouve. Il gronde Jean-Baptiste, lui reprochant d'avoir abandonné sa grande sœur. Le petit garçon, seul témoin de cet enlèvement, est invité à raconter le plus précisément possible tout ce dont il se souvient. À force de répéter, il commence à se perdre un peu dans les faits et dans leur chronologie. Le lendemain de l'enlèvement de Marie-Dolorès, le mardi 4 juin, Pierre Rambla et son fils, Jean, arrivent ensemble au commissariat. L'enfant est entendu pendant 2 heures. Les policiers lui montrent des photos d'agresseurs, d'exhibitionnistes, de pédocriminels, sans qu'ils n'en reconnaissent aucun comme étant l'homme au chien. Le mercredi 5 juin, 2 jours après l'enlèvement de Marie-Dolorès, des gendarmes fouillent une champignonnière à une 20aine de kilomètres de Marseille. À 15h45 précisément, ils découvrent le cadavre de la fillette, dissimulé sous des branchages. Damien, un Niçois de 20 ans, est arrêté.
Il s'appelle Christian Ranucci. Alors, c'est le propriétaire d'une voiture qui ressemble à celle qui a été décrite par le petit Jean-Baptiste Rambla dans son témoignage. En revanche, Jean-Baptiste Rambla, quand on lui demande de venir reconnaître Christian Ranucci à la gendarmerie derrière une glace sans teint, il ne reconnaît pas la personne, soi-disant, qui avait perdu son chien et qui a enlevé sa sœur. Qui est Christian Ranucci ? C'est un représentant commercial qui va donc être placé en garde à vue, assez longuement auditionné. Au début, il va absolument nier avoir une quelconque responsabilité avec la disparition et le meurtre de Marie-Dolorès. Et puis, il va finir par avouer, mais avec tout ce faisceau de doutes autour du modèle de la voiture et puis de la réelle culpabilité ou pas de Christian Ranucci.
Son procès s'ouvre le mardi 9 mars 1976 devant la cour d'assises des Bouches-du-Rhône à Aix-en-Provence et le lendemain, Christian Ranucci est condamné à la peine de mort.
C'est un procès extrêmement médiatique, on l'a dit. C'est une affaire qui est, comme toutes les disparitions et les meurtres d'enfants, qui est chargée en émotion, en colère, en haine même. Donc c'est un procès qui est extrêmement suivi. On est au début du débat sur l'abolition ou pas de la peine de mort en France. Le président de l'époque, c'est Giscard d'Estaing. Donc il y a aussi, en toile de fond du procès de Ranucci, le procès de la peine capitale. Mais jusqu'au bout, beaucoup ont pensé que d'ailleurs Giscard d'Estaing allait gracier, comme il en avait la possibilité à l'époque, allait gracier Christian Ranucci, justement pour répondre à ce débat sur l'abolition de la peine de mort. Et finalement, Giscard n'en fait rien. Et le mercredi 28 juillet 1976, derrière les murs de la prison des Baumettes, Christian Ranucci est guillotiné.
Dès le début de l'enquête sur la mort de Corinne Bédel, l'affaire Ranucci est au centre des débats.
La justice va d'ailleurs décider de verser le dossier Ranucci dans le dossier d'enquête sur la mort de Corinne Bédel, parce que Jean-Baptiste Rambla, il a grandi avec cette affaire, avec cette espèce de fantôme de sa sœur qui était en permanence présent dans la famille. Il y avait notamment l'assiette de sa sœur Marie-Dolores qui était toujours mise, le couvert était toujours mis pour elle à table. Enfin, vous imaginez un peu le traumatisme que ça peut être pour la famille et pour ce petit garçon. Et il le dira beaucoup plus tard, il a le sentiment de pas du tout avoir été protégé comme on aurait dû protéger un enfant de 6 ans qui avait été le témoin de quelque chose d'horrible.
En 1978, un livre paraît, le Pullover rouge. Il revient sur cette affaire et c'est un nouveau traumatisme pour Jean-Baptiste Rambla.
Pourquoi d'abord ce titre, le Pullover rouge ? Dans la champignonnière où on retrouve le corps de Marie-Dolores Rambla, on va trouver un pullover rouge qui n'appartient pas à Christian Ranucci, parce que ça a été prouvé. Donc il y a toujours eu un doute sur le fait que si ce pullover n'appartenait pas à Christian Ranucci, ça pouvait être une preuve de son innocence et que ce pullover rouge, il appartenait probablement au meurtrier de Marie-Dolores qui n'a jamais été véritablement identifié. Mais la famille Rambla, et notamment le père de Marie-Dolores, il est totalement contre cette version et il est obsédé par la sortie de ce livre qui plaide pour l'innocence de Christian Ranucci. Et il va essayer de faire interdire la sortie du livre. Il va même se rendre à un salon du livre où se trouve Gilles Perrault pour lui défoncer son stand et jeter tous les livres par terre. Et il va transmettre cette forme d'obsession et cette forme de haine à son propre fils Jean-Baptiste. Et finalement, Jean-Baptiste, il va grandir, évoluer avec cette volonté de ne jamais entendre parler de l'innocence de Ranucci. Ça va profondément le traumatisé parce que Ranucci est devenu une sorte d'icône pour les abolitionnistes, pour ceux qui sont contre la peine de mort. Et pour Jean-Baptiste Rambla, cette idée, elle est totalement insupportable.
30 ans après ce drame, Jean-Baptiste Rambla est donc une nouvelle fois assis dans un commissariat face à des policiers. Il n'est plus témoin, mais suspect numéro 1 dans un crime qu'il reconnaît. Jean-Baptiste Rambla dit penser au fils de Corinne. Il craint que celui-ci ne lise les écrits sur l'affaire et ressente les mêmes souffrances que lui lorsqu'il avait dévoré tout ce qui était paru sur le drame de sa sœur. Jean-Baptiste Rambla a grandi avec l'omniprésence de cette affaire, avec la culpabilité aussi, selon ses avocats, d'avoir livré à l'époque un témoignage dont le flou a participé à alimenter une polémique destructrice pour sa famille. Après le meurtre de Marie-Dolores, malgré son jeune âge, Jean-Baptiste Rambla a pris des médicaments pour dormir. Il est devenu accro et a remplacé ses médicaments par de la drogue. Quand on a vécu ce qu'il a vécu petit, on ne peut pas fonctionner normalement, plaide un de ses avocats. Avant même le début du procès, les éléments de la défense de Jean-Baptiste Rambla s'étalent dans la presse. Depuis des années, l'image de Marie-Dolores revient devant ses yeux, poursuit un autre avocat. Il n'a pas trouvé de réconfort auprès de ses parents, qui sont atteints par la même tristesse. Personne ne s'est suffisamment intéressé à lui. Et il s'est replié sur lui-même, ne parlant même pas à la mère de son enfant. À ce portrait de garçon mélancolique, la famille de Corinne Bédel oppose la violence des faits. Il a étranglé sa patronne, puis il a dissimulé son corps sans même l'enterrer. Jean-Baptiste Rambla a fait mine de participer aux recherches, et avec un sang-froid déroutant, il a envoyé 2 textos au fils de Corinne en se faisant passer pour elle. Pour toutes ces raisons, les proches de Corinne ne comprennent pas l'empathie générale pour l'accusé. Christian Chalençon rappelle qu'en 1999, c'est elle, Corinne, qui avait accepté d'engager Jean-Baptiste à la demande du père Rambla. Les deux familles se connaissent depuis toujours. Pour les obsèques de Marie Dolores, le frère de Corinne avait même aidé à porter le cercueil. « On ne parle pas de ma sœur », déplore Edith Bédel. « C'est elle qui a disparu. Ce qui s'est passé il y a 30 ans, la mort de Marie Dolores, l'affaire Ranucci, cela n'a rien à voir. »
Actualité judiciaire, avec ce procès très suivi parce qu'il met pleinement en jeu l'idée de circonstances atténuantes. L'accusé Jean-Baptiste Rambla est le frère d'une fillette assassinée il y a 35 ans.
Damien, le procès de Jean-Baptiste Rambla s'ouvre le 16 octobre 2008 devant la cour d'assises des Bouches-du-Rhône à Aix-en-Provence.
Donc c'est la même cour d'assises que celle qui avait jugé l'affaire Ranucci une trentaine d'années auparavant. Il y a forcément une charge émotionnelle importante et médiatique pour ce procès. Jean-Baptiste Rambla, lui, il a 41 ans au moment où s'ouvre son procès devant la cour d'assises. Et il commence par dire qu'il sait ce que représente la disparition d'une personne, qu'il se sent couvert de honte. Mais tout de suite, il déporte quelque part le débat sur son enfance en disant « Mon enfance, elle a été très perturbée par une disparition et par un meurtre, donc je sais ce que c'est. J'ai grandi dans la misère psychologique », ajoute-t-il, « et personne ne peut comprendre ce que j'ai subi depuis l'âge de 6 ans. » Et le président de la cour d'assises, il va le couper un petit peu dans cet élan en lui disant « Écoutez, ça, tout le monde le sait, mais pour autant, aujourd'hui, c'est pas de ça qu'on parle. On refait pas le procès Ranucci, on ne reparle pas que de l'affaire Marie Dolores. On parle effectivement du meurtre assez barbare de Corinne Bédel. » Ça donne un petit peu le ton des débats parce que, évidemment, Jean-Baptiste Rambla, il va beaucoup parler de lui et de ce traumatisme et ça va beaucoup agacer le camp adverse parce qu'il va donner l'impression de se cacher derrière, finalement, le meurtre de sa sœur pour expliquer le meurtre qu'il a commis 30 ans plus tard.
Le vendredi 17 octobre 2008, Jean-Baptiste Rambla est condamné à 18 ans de prison.
Oui, ça veut dire qu'à la fois, les jurés ont pris en compte l'extrême gravité de son crime, qui est quand même assez barbare, en plus avec des explications qui sont pas très claires, à la fois du chantage sexuel, peut-être un mobile plus crapuleux, plus financier. Dans les 18 ans, ils prennent quand même en compte le fait qu'il a une personnalité et un passé qui ont sans doute un peu compté, ce qui explique que ce soit pas une peine plus lourde, hein, il pouvait aller jusqu'à 30 ans de prison. Il va purger sa peine de prison avec un comportement plutôt exemplaire en détention. Il va passer un certain nombre de diplômes et il va surtout obtenir un avis très favorable de la commission d'aménagement des peines. Cette commission, elle est chargée pour tous les détenus hein, qui font notamment des longues peines, d'estimer si ils peuvent bénéficier d'une libération anticipée, d'une libération conditionnelle. Alors c'est à la fois des examens psychologiques, psychiatriques, de jauger un petit peu le projet qu'a le détenu à sa sortie de prison. Et concernant Jean-Baptiste Rambla, quand il est vu par un psychiatre en 2013 qui vient le visiter à la prison de Muret où il est détenu à l'époque, ce psychiatre, il ne va pas déceler de dangerosité de la part de Jean-Baptiste Rambla. Il va même ajouter que selon lui, en milieu libre, c'est-à-dire à l'extérieur, dehors, il n'est pas susceptible de récidiver. On l'autorise à quitter la prison, à bénéficier d'une libération conditionnelle et il est remis en liberté en 2015.
Pour commencer sa nouvelle vie, Jean-Baptiste Rambla choisit Toulouse et le quartier en Palo. Il a désormais 49 ans et travaille dans une société de recyclage de télévision. Il est retombé dans la toxicomanie et est redevenu accro à la cocaïne. Le matin du vendredi 21 juillet 2017, il raconte qu'un couple l'agresse près de chez lui. Dans l'après-midi, il croit reconnaître la femme de ce couple, à la fenêtre d'un immeuble dans une résidence du quartier Arnaud Bernard, place des Tiercerettes, à deux pas de la basilique Saint-Sernin. Il monte au quatrième étage et frappe à la porte. C'est celle de l'appartement de Cynthia Lounimbou, une jeune Angolaise de 21 ans, arrivée en France en 2011 et travaillant pour des sociétés de nettoyage. Elle ouvre. Jean-Baptiste Rambla lui assène de violents coups de poing au visage. Il entre dans l'appartement, vérifie qu'elle est seule et la roue de coups, avant de l'égorger 30 minutes plus tard. Puis il nettoie la scène de crime, se rince dans la douche pour laver le sang et éparpille les affaires de la jeune femme pour faire croire à un cambriolage qui aurait mal tourné. Il ne vole rien, il ne la viole pas non plus. Et il prend soin de bien refermer la porte. 6 jours après, le jeudi 27 juillet, les policiers, alertés par les proches de la jeune femme, forcent la porte de l'appartement et découvrent la scène de crime. Ils n'ont aucun mal à isoler un profil génétique autre que celui de la jeune femme. une simple comparaison de l'ADN du suspect avec ceux réunis dans le fichier national automatisé des empreintes génétiques permet de l'identifier. Il est connu de leur service. C'est Jean-Baptiste Rambla. Le mercredi 9 août, Jean-Baptiste Rambla est interpellé dans le Var, à Sifour-les-Plages, chez sa sœur. Il avait pris un train depuis Toulouse pour la rejoindre le 24 juillet. Il ne se cachait même pas. Damien, en garde à vue, Jean-Baptiste Rambla commence par nier.
Oui, faudra attendre la quatrième audition pour qu'il reconnaisse les faits, c'est-à-dire le 11 août, un peu avant 9h30. Il va finir par se mettre à table, comme disent les policiers. Alors, il ne va pas expliquer son geste, mais il va dire que le fait de l'avoir avoué lui permet de se sentir plus léger.
Devant la cour d'assises de Haute-Garonne, où il comparaît cette fois, sa défense est à peu près la même que celle qu'il avait adoptée pour le meurtre de Corinne Bédel.
Jean-Baptiste Rambla, il est enfermé dans son passé dramatique et traumatique d'enfance et il va toujours justifier en quelque sorte ses gestes meurtriers, que ce soit celui sur Corinne Bédel ou celui sur Cynthia Lounimbou, toujours par le prisme du traumatisme de l'affaire Ranucci, de sa petite sœur qui a disparu, dont il a été le dernier témoin. Donc il parle beaucoup de lui et ça finit par agacer un peu tout le monde parce qu'il n'a que ça comme défense. Mais en quelque sorte, on a l'impression que la seule manière pour Jean-Baptiste Rambla de soigner ses traumatismes, c'est de tuer d'autres femmes.
Pourtant, pendant le procès, l'expert psychiatre Daniel Zaguri explique que ce n'est pas parce que sa sœur a été assassinée qu'il a tué à deux reprises. Il ajoute, même s'il est incontestable que le développement affectif de Jean-Baptiste Rambla a été influencé d'une façon négative par l'assassinat de Marie Dolores. Il n'a pas de troubles psychiques et son discernement n'était pas aboli au moment des faits.
Condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité pour Jean-Baptiste Rambla.
Le vendredi 18 décembre 2020, à 53 ans, il est condamné à la réclusion criminelle à perpétuité.
Jean-Baptiste Rambla est surtout le frère de Marie-Dolores Rambla, enlevée sous ses yeux à Marseille alors qu'il n'avait que 6 ans, puis assassiné par Christian Ranucci. C'est la fameuse affaire du Loup-Garou.
Vous venez d'écouter Crime Story, le podcast fait divers du Parisien. Avec à la production Thibault Lambert et Raphaël Pueyo, à la réalisation Julien Moncouquiole et à la rédaction en chef Jules Lavie. Un épisode raconté avec Damien Delseny et un podcast à retrouver chaque samedi sur le site leparisien.fr et sur toutes les plateformes d'écoute.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.